Ernest Renan, Ma sœur Henriette, chapitre 2. À partir de ce moment, notre état fut la pauvreté. Mon frère, qui avait 19 ans, partit pour Paris et commença dès lors cette vie de travail et de constante application qui ne devait pas avoir toute sa récompense. Nous quittâmes Tréguier, dont le séjour avait pour nous trop de tristesse, et nous allâmes habiter Lannion, où ma mère avait sa famille. Ma sœur avait 17 ans. Sa foi était toujours vive, et plus d'une fois, la pensée d'embrasser la vie religieuse avait fortement préoccupé son esprit. Le soir, en hiver, elle m'amenait à l'église sous son manteau. C'était pour moi une grande joie de fouler la neige ainsi abritée de toutes parts. Sans moi, elle eût sans contredit adopté un état qui, vu son instruction, ses dispositions pieuses, son manque de fortune et les coutumes du pays, semblait pour elle tout à fait indiqué. C'était surtout vers le couvent de Sainte-Anne à Lannion, joignant le soin des malades à l'éducation des demoiselles, que se tournaient ses désirs. Hélas, peut-être, si elle eût suivi cette pensée, eût-elle mieux travaillé pour son repos. Mais elle était trop bonne fille et trop tendre sœur pour préférer son repos à ses devoirs, même quand des préjugés religieux qu'elle partageait encore devaient la rassurer. Dès lors, elle s'envisageait comme chargée de mon avenir. Un jour, trouvant mes mouvements embarrassés, elle vit que je cherchais timidement à dissimuler le défaut d'un vêtement usé. Elle pleura. La vue de ce pauvre enfant destiné à la misère, avec d'autres instincts, lui serra le cœur. Elle résolut d'accepter le combat de la vie et s'imposa la tâche de combler à elle seule l'abîme que la mauvaise fortune de notre père avait creusé devant nous. Le travail manuel d'une jeune fille était pour cela tout à fait insuffisant. La carrière qu'elle embrassa fut la plus amère de toutes. Il fut résolu que nous retournerions à Tréguier et qu'elle y exercerait les fonctions d'institutrice. De toutes les conditions qu'une personne bien élevée et sans fortune peut choisir, l'éducation des femmes dans une petite ville de province est sans contredit celle qui demande le plus de courage. On était aux premiers temps qui suivirent la Révolution de 1830. Ce fut pour ces provinces écartées un moment de crise fâcheuse. La noblesse, sous la Restauration, voyant son privilège incontesté, avait pris franchement part au mouvement du monde. Maintenant, se croyant humiliée, elle se vengeait en se retirant dans un cercle étroit et en appauvrissant le développement général de la société. Toutes les familles légitimistes affectaient de ne confier leurs enfants qu'à des communautés religieuses. Les familles bourgeoises, pour suivre la mode et faire comme les gens de qualité, adoptèrent bientôt le même usage. Incapable de descendre à ces moyens d'habileté vulgaire, sans lesquels il est presque impossible que les maisons d'éducation privées réussissent, ma sœur, avec sa rare distinction, son profond sérieux, son instruction solide, voyait sa pauvre petite école abandonnée. Sa modestie, sa réserve, le ton exquis qu'elle portait en toutes choses, étaient ici des raisons d'insuccès. Aux prises avec des susceptibilités mesquines, obligée de compter avec les plus sottes prétentions, cette noble et grande âme s'usait dans une lutte sans issue contre une société abaissée à laquelle la Révolution n'avait enlevé les meilleurs éléments qu'elle possédait autrefois sans lui porter encore aucun de ses bienfaits. Quelques personnes supérieures aux petitesses du pays savaient l'apprécier. Un homme fort intelligent et dégagé des préjugés qui règnent sans contrepoids dans les villes de province, depuis que l'aristocratie a disparu, ou s'est par réaction faussée et abêtie, conçu pour elle un sentiment très élevé. Ma sœur, malgré une marque de naissance à laquelle il fallait quelque temps pour s'habituer, avait à cet âge un charme extrême. Les personnes qui ne l'ont connue que tard et fatiguées par un climat rigoureux ne peuvent se figurer ce que ses traits avaient alors de délicatesse et de longueur. Ses yeux étaient d'une rare douceur. Sa main était la plus fine et la plus ravissante qui se pût voir. Des propositions furent faites, des conditions discrètement indiquées. Ces conditions n'auraient eu pour effet de la détacher en quelque sorte des siens pour lesquels on supposait qu'elle avait assez travaillé. Elle refusa, quoique la netteté et la justesse de son esprit lui inspirassent un vrai penchant pour des qualités toutes semblables qu'elle rencontrait. Elle préféra la pauvreté à la richesse non partagée avec sa famille. Sa situation, cependant, devenait de plus en plus pénible. Les salaires qui lui eussent été dus étaient si irrégulièrement payés que, par moments, nous regrettions d'avoir quitté Lannion où nous avions trouvé plus de dévouement et de sympathie. Elle résolut alors de boire le calice jusqu'à la lie. 1835. Une amie de notre famille, qui fit vers cette époque le voyage de Paris, lui parla d'une place de sous-maîtresse dans une petite institution de demoiselles. La pauvre fille accepta. Elle partit à 24 ans, sans protection, sans conseil, pour un monde qu'elle ignorait et qui lui réservait un apprentissage cruel. Ses débuts à Paris furent horribles. Ce monde de froideur, de sécheresse et de charlatanisme, ce désert où elle ne comptait pas une personne amie, la désespéra. Le profond attachement que nous autres Bretons portons au sol, aux habitudes, à la vie de famille, se réveilla avec une déchirante vivacité. Perdue dans un océan où sa modestie la faisait méconnaître, empêchée par sa réserve extrême de contracter ces bonnes liaisons qui consolent et soutiennent quand elles ne servent pas, elle tomba dans une nostalgie profonde qui compromit sa santé. Ce qu'il y a de cruel pour le Breton dans ce premier moment de transplantation, c'est qu'il se croit abandonné de Dieu comme des hommes. Le ciel se voile pour lui. Sa douce foi dans la moralité générale du monde, son tranquille optimisme est ébranlé. Il se trouve jeté du paradis dans un enfer de glaciale indifférence. La voix du bien et du beau lui paraît devenue sans timbre. Il s'écrit volontiers « Comment chanter le cantique du Seigneur sur la terre étrangère ?» Pour comble de malheur, les premières maisons où le sort la conduisit n'étaient pas dignes d'elle. Qu'on se figure une tendre jeune fille n'ayant jamais quitté sa pieuse petite ville, sa mère, ses amis, jetée tout à coup dans un de ces pensionnats frivoles où ses idées sérieuses sont à chaque moment blessées, où elle ne trouve chez les directrices que légèreté, insouciance, sordide intérêt. Elle avait gardé de cette première expérience des jugements fort sévères contre les maisons d'éducation de femmes à Paris. 20 fois, elle fut sur le point de repartir. Il fallut son invincible courage pour rester. Peu à peu, cependant, elle fut appréciée. La direction des études d'une maison d'éducation, cette fois très honnête, lui fut confiée. Mais les obstacles qu'elle trouva pour la réalisation de ses vues dans les petitesses inséparables d'établissements privés, presque toujours soutenus par leurs propriétaires en vue de gains chétifs, l'empêchèrent de jamais prendre beaucoup de goût à ce genre d'enseignement. Elle travaillait 16 heures par jour. Toutes les épreuves publiques imposées par les règlements, elle les subit. Ce travail n'eut pas sur elle l'effet qu'il aurait eu sur une nature médiocre. Au lieu de l'éteindre, il la fortifia et amena chez elle un grand développement d'idées. Son instruction, déjà très étendue, devint exceptionnelle. Elle étudia les travaux de l'école historique moderne et il me suffit plus tard de quelques mots pour lui donner le sens de la plus fine critique. Du même coup, ses idées religieuses se modifièrent. Elle vit par l'histoire l'insuffisance de tout dogme particulier. Mais le fond religieux qui était en elle, par le don de la nature et par le fait de l'éducation première, était trop solide pour être ébranlé. Tout ce développement, qui eût pu être dangereux chez une autre femme, fut ici sans venin, car elle le garda pour elle seule. La culture de l'esprit avait à ses yeux une valeur intrinsèque et absolue. Elle ne songea jamais à en tirer une satisfaction de vanité. Ce fut en 1838 qu'elle me fit venir à Paris. Élevée à Tréguier par d'excellents prêtres qui y dirigeaient une sorte de petit séminaire, j'annonçai de très bonne heure des dispositions pour l'état ecclésiastique. Les succès de collège que j'obtenais enchantaient ma sœur, qui en fit part à un homme bon et distingué, médecin de la maison d'éducation Noilettais et catholique très zélé, le docteur Décuret, l'auteur de la médecine des passions. Monsieur Décuret parla à monsieur Dupanloup, qui alors dirigeait d'une façon si brillante le petit séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay, de l'acquisition possible d'un bon élève, et revint annoncer à ma sœur qu'une bourse au petit séminaire m'était offerte. J'avais 15 ans et demi. Ma sœur, dont les croyances catholiques commençaient à s'ébranler, voyait déjà, avec quelques regrets, la direction toute cléricale de mon éducation. Mais elle savait le respect que mérite la foi d'un enfant. Jamais elle ne me dit un mot pour me détourner d'une ligne que je suivais en toute spontanéité. Elle venait me voir chaque semaine. Elle portait encore le simple châle de laine verte qui, en Bretagne, avait abrité sa fière pauvreté. C'était la même jeune fille, aimante et douce, mais avec un degré de fermeté et de raison que les épreuves de la vie et de fortes études y avaient ajouté. La carrière de l'éducation est si ingrate pour les femmes qu'au bout de 5 années passées à Paris, après plusieurs maladies contractées par l'excès du travail, ma sœur était loin encore de suffire aux charges qu'elle s'était imposées. Il est vrai qu'elle les avait conçues d'une façon qui eût découragé tout autre qu'elle. Notre père avait laissé un passif qui dépassait de beaucoup la valeur de notre maison paternelle, la seule propriété qui nous resta. Mais notre mère était si aimée et toutes les affaires se traitaient encore en ce bon pays, d'une manière si patriarcale qu'aucun créancier ne songea à presser une solution. Il fut convenu que ma mère garderait la maison, paierait ce qu'elle pourrait et quand elle pourrait. Ma sœur ne voulait entendre parler de repos que quand tout ce lourd passé serait liquidé. C'est ainsi qu'elle fut amenée à écouter des propositions qui lui furent faites en 1840 pour une éducation particulière en Pologne. Il s'agissait de s'expatrier pour des années et d'accepter la plus rude des suggestions. Mais elle avait fait un bien plus grand effort quand elle quitta la Bretagne pour se lancer dans le vaste monde. Elle partit en janvier 1841, traversa la forêt noire et toute l'Allemagne du Sud couverte de neige, rejoignit à Vienne la famille à laquelle elle était attachée, puis, franchissant les Carpates, arriva au château de Clemenceau, sur les bords du Bug, triste demeure où elle devait, durant 10 années, apprendre combien l'exil est amer, même quand on a pour le soutenir un motif élevé. Cette fois, du moins, le sort lui réserva une compensation pour tant d'autres injustices, en la plaçant dans une famille que je puis bien désigner, puisque à son illustration historique, elle vient d'ajouter une gloire contemporaine qui met son nom sur toutes les bouches. Ce fut la famille du comte André Zamoyski. L'amour avec lequel elle embrassa ses fonctions, l'affection qu'elle conçut pour ses trois élèves, le bonheur de voir ses efforts fructifier, en particulier dans celle qui, par son âge, fut appelée à recevoir le plus longtemps ses leçons, Madame la princesse Cécile Lubomirska, la rare estime qu'elle obtint de toute cette noble famille qui, après son retour en France, ne cessa point de recourir à ses lumières et à ses conseils, l'affinité qu'il y avait, par le sérieux et la droiture, entre son caractère et celui de la maison où elle vivait, lui firent oublier les tristesses inséparables de ces sortes de positions et les rigueurs d'un climat très contraire à son tempérament. Elle s'attacha à la Pologne et conçut en particulier beaucoup d'estime pour le paysan polonais, en qui elle voyait une créature bonne, pleine de hauts instincts religieux, rappelant le paysan breton, mais avec moins d'énergie. Les voyages qu'elle fit en Allemagne et en Italie achevèrent de mûrir ses idées. Elle résida à plusieurs reprises à Varsovie, à Vienne, à Dresde. Venise et Florence lui causèrent un vrai enchantement. Mais ce fut Rome surtout qui l'attacha. Cette ville, si profondément inspiratrice, l'amena à concevoir avec beaucoup de sérénité la séparation que tout esprit philosophique est obligé de faire entre le fond de la religion et ses formes particulières. Elle aimait à l'appeler avec Lord Byron « chère cité de l'âme ». Comme tous les étrangers qui y ont résidé, elle était même devenue indulgente pour ce que l'établissement moderne de la papauté entraîne de détails niais et puérils.